Le Practice RMC Special Ryder Cup, Jean-Christophe Drouet.
Bonsoir à tous, c'est l'After Golf, le Practice RMC spécial Ryder Cup. Ça y est, nous avons le dénouement, c'est l'Europe qui a remporté la 44e édition. Nous allons débriefer ces trois jours magnifiques et cette dernière journée à suspense avec toute la Dream Team Golf. Vous en avez pris l'habitude, Simon Dutin, notre journaliste et éditorialiste RMC. Bonsoir Simon.
Salut JC, bonsoir tout le monde.
Un homme heureux ?
Évidemment, oui, serein, heureux.
Un homme serein, très bien. Voilà. Un homme qui n'a pas tremblé. Et on va en reparler.
Ah, j'avoue, j'ai un peu tremblé cet après-midi.
Dans cette émission, Fabien Donoyan, pro de golf, directeur général adjoint et directeur de l'Académie U-Golf et Blue Green. Bonsoir Fabien.
Salut JC, salut tout le monde.
Toi qui nous as vendu les Américains pendant trois jours, un homme heureux, un homme en colère, comment tu es ?
Un homme très heureux parce qu'on a vécu une Ryder Cup extraordinaire.
Ramucho Artola, pro de golf, patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac. Bonsoir Ramucho.
Bonsoir tout le monde, bonsoir JC.
Pendant ces trois jours, à un moment donné, tu as tourné Kazakh, tu as changé de camp, tu étais pour l'Europe, puis pour les États-Unis. Tu es comment là ?
Non, je suis toujours pour le beau jeu et cet après-midi, effectivement, on a été gâtés, ça c'est clair. Donc je suis très heureux.
Martin Coulon, l'homme qui sera jamais pour l'Europe, ancien rédacteur en chef adjoint du journal du Golf. Bonsoir Martin.
Salut tout le monde, mais comment est-ce qu'on peut pas être à jamais pour l'Europe ? Explique-moi, c'est pas possible ça.
T'es heureux ?
Bien sûr, je suis heureux. Belle Ryder Cup et puis belle victoire.
Mmh. Allez, pendant une heure, never nous allons compromise. Débriefer cette 44e édition. Vive la Ryder Cup, vive l'Europe.
Fleetwood, ce qui va faire arriver ce putt tranquillement. Non, se la mettre donnée, évidemment, on va le faire putter. Non, il est donné ? Il est donné et la Ryder Cup est officiellement européenne pour deux ans de plus.
Le Practice RMC Spécial Ryder Cup.
Avec les copains de Canal+, évidemment, Tommy Fleetwood qui a remporté, qui a donné ce point manquant à l'Europe. L'Europe vient donc de signer une victoire magnifique face aux Américains. 16,5-11,5 avant notre débat. Qu'allez-vous retenir de ce dimanche pour l'After Foot ? L'important, c'est les trois points. Pour l'After Golf, c'est autre chose.
L'important, c'est l'essentiel.
Hein. Le plus important, c'est
les deux putts.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Le plus important, c'est les deux putts. À vous de me dire les deux points les plus importants de cette journée du dimanche. On va commencer avec Martin Coulon. Tes deux points.
Mes deux points, j'ai envie de dire d'abord, évidemment, l'esprit d'équipe de cette Europe qui, même si elle a tremblé en simple cet après-midi, on va pas se le cacher, il y a eu quand même des moments où on s'est dit « Et si ?» Il se passait un truc côté américain, ce qui s'est passé d'ailleurs, puisqu'ils ont égalisé la session. Et moi, c'est cet esprit d'équipe que j'ai envie de retenir. Ça, c'est vraiment le moment. Il y a pas vraiment de moment clé sur ça, mais c'est une cohésion. C'est un héritage qui se trimballe depuis des générations en générations et d'édition en édition, et qui, là encore, a montré toute l'étendue de sa saveur, surtout évidemment dans les phases de double. Quoi. Ça, c'est clair et net.
Ok, l'esprit d'équipe, c'est ce que tu as envie de retenir. Ramucho Artola, l'important, c'est les deux putts. Tes deux points, on t'écoute.
Alors, la formule du match play qui devrait être utilisée bien plus que ça dans les tournois de l'année et qui rendrait notre sport encore plus populaire et attractif. C'était vraiment extraordinaire, cette formule. Okay. Deuxième point.
Bah oui, ton deuxième point.
Deuxième
point.
Si
t'as envie. Hein,
oui, oui, oui. Deuxième point. Les Rockies, aujourd'hui, les Rockies étaient à la peine. Ils ont presque tous perdu. Alors, McIntyre a battu Clark, qui était un Rockies également. Mais la plupart, on en parlera après, sauf Magic Oma, ont tous perdu, ont tous eu en tout cas eu du mal en simple.
Ok, c'est ce que tu as envie de retenir. Fabien Donoyan, tes deux points du jour.
Alors, le premier, c'est l'orgueil américain aujourd'hui, parce que il y a eu un moment donné de la Ryder où ça pouvait tourner. Ça pouvait tourner. Je reviendrai aussi sur ce point et ça n'a pas tourné parce qu'il y a des raisons à ça. Et l'autre point qui va rejoindre celui de Martin, effectivement, l'Europe, les joueurs extraordinaires, un état d'esprit, une combativité et j'ai envie de dire une joie de vivre qui contraste néanmoins avec.
Une joie d'être ensemble même.
Oui, mais quand tu dis ça, t'es pas obligé de faire la tronche, hein, Fabien. Hein.
Alors, je voudrais juste quand même préciser. On fait une émission et j'assume le fait que j'aime les États-Unis. J'aime les joueurs américains. Mais si on avait été tous pour l'Europe, c'eût été moins drôle. Donc, j'assume complètement le fait d'avoir été pour les États-Unis et effectivement être un peu le contradicteur.
Et même sur le papier, les Américains avaient peut-être plus d'atouts au début de cette compétition.
Mais
en revanche, je
trouve que les Européens et les anciens Européens, j'y reviendrai aussi dans mes points tout à l'heure, ont été fantastiques et beaucoup plus à la hauteur qu'on ne pouvait l'imaginer.
Les deux points de Simon Dutin, on t'écoute Simon.
Voilà la magie de la Ryder Cup, parce qu'on a, avec un peu de condescendance, quand même, on va pas se le cacher, presque eu peur que ce soit trop vite plié pour l'Europe, que ça manque de suspense, et on s'est rendu compte avec les simples que on avait quand même réussi à se faire peur, ou à presque se faire peur durant ce dimanche. Ce qui m'emmène au deuxième point, la preuve que face à ces Américains qui montrent quand même qu'individuellement ils sont quand même un petit peu au-dessus des Européens, le team spirit européen reste un petit peu magique quand même dans cette compétition, et on ne se lasse pas du fist pump, tu sais, face à la foule là, tu sais, quand la balle tombe dans le trou et que tu
arranges la foule,
le poing serré là, on aime ces images au ralenti.
Alors, on avait fait un petit jeu jeudi soir, lors du premier numéro exceptionnel de ce practice RMC spécial Ryder Cup. C'était de savoir combien il allait y avoir. Voilà, votre pronostic. Je rappelle que l'Europe vient de s'imposer ce dimanche, 16,5, 11,5. On réécoute pour le plaisir ce que vous avez dit jeudi avant le début de l'édition. Un score à l'issue de cette Ryder Cup entre les Américains et les Européens. Simon Dutin.
Europe, 15,5,
12,5. Ok.
États-Unis, 15-13.
Moi, je mets 14,5, 13,5. Et je te dis pas pour qui.
Ça nous plaît.
Tu m'as demandé un score.
Ok, ça veut dire que c'est serré, parfait.
Bien sûr, c'est serré.
Ramucho.
Une fois de plus, comme Fabien, mais inversé, évidemment. 15-13 pour l'Europe.
15-13 pour l'Europe.
Et toi, JC, on a le droit de ça ?
J'ai envie que ce soit serré et j'ai envie que les Américains gagnent, donc j'achète
T'as
beaucoup
envie que
le...
les Américains gagnent.
Que les Européens gagnent, pardonnez-moi, donc j'achète beaucoup le 14,5, 13,5. Finalement, c'est Simon Dutin qui a gagné ce petit jeu. Tu nous as annoncé 15,5, 12,5.
15,5, 12,5, oui, j'avais été un petit peu mesquin, tu vois.
Bravo à toi, tu avais tout vu.
Merci, c'est comme au juste prix, il y a un truc, on gagne un truc.
Oui, tu vas gagner...
Je reviens la semaine prochaine.
Non, un bouquet de carottes, tu verras.
D'accord, bon, formidable.
Ça va être très sympa. Vendredi, samedi, l'Europe a donc écrasé la compétition des Européens en feu. On en a longuement parlé dans cette émission, des Américains méconnaissables qui ne sont finalement entrés dans cette Ryder Cup que dimanche. Et forcément, ils pourraient peut-être désormais avoir des regrets. Voici le débat que je vous propose. Est-ce surtout l'Europe qui a gagné ou les Américains qui ont perdu ? Simon Dutin.
C'est l'Europe qui a gagné.
Fabien Denoyan.
Ce sont les États-Unis qui ont perdu.
Martin Coulon.
C'est l'équipe européenne qui a gagné.
Ramush Vartola.
Les Américains qui ont largement perdu.
Ok, j'ai deux Europes, deux Américains, c'est parfait. On peut quand même débattre après cette 44e édition de la Ryder Cup. Qui veut se lancer ? Simon Dutin, pourquoi c'est l'Europe qui gagne ?
Là, je rejoins tout à fait mon copain Martin Coulon. J'avais prévu de dire il y a 12 Américains qui ont perdu contre une équipe européenne, effectivement. Et on aura l'occasion d'en reparler. C'est... confirmation, en fait. Je pensais que les clichés avaient la peau moins dure que ce qu'on pensait, tu vois. Je pensais qu'il y avait beaucoup de clichés justement sur la fameuse magie européenne, ces mecs qui jouent mieux en équipe. Tu sais, à Whistling Straits, on s'était dit, ça y est, on en parlait tu sais, dans le preview, c'est le retour du Boys Club, ils sont copains, ça marche, tu vois, les Tigers, les Phils sont plus là, ils écrasent plus de leur grosse personnalité cette équipe. Ils s'entendent bien, les mecs, ils sont meilleurs dans les doubles. Bon, ça reste un savoir-faire européen. On les a laminés, on leur a mis 7-1 en foursome. Il y a clairement un point à travailler du côté des Américains. Et le foursome, on rappelle que c'est quand même la formule qui nécessite le plus de cohésion entre les mecs. Et ils ont été inexistants. Je rappelle la stat que je donnais cette semaine. Sur les trois dernières éditions de Ryder en Europe, on est à 24 dans les foursomes pour la Team Europe. Au bout d'un moment, c'est plus un hasard, quoi.
Mais au bout d'un moment, peut-être que les Américains vont travailler cet exercice. Ils vont peut-être mais aussi
ça
s'en rendre compte.
Ça fait 30 ans qu'on dit ça.
C'est très longtemps. Là, c'est caricatural. Hein. Cette année, ils ont remporté 1,5 point sur 16 possibles en double. Donc c'est, en pourcentage, c'est ridicule. Donc forcément, c'est évidemment le vendredi et le samedi, les journées de double où les Américains n'ont pas vu le jour.
C'est ça qui te fait dire que les Américains ont perdu.
Ah
surtout.
Oui, mais oui, même si t'es un peu plus défaillant, on va dire en double qu'en simple, tu dois pas laisser un tel écart, tu dois pas laisser autant de points sur la route lors des doubles, que ce soit en 4 balles ou en foursomme. Non, non, là vraiment. Et puis bon, après il y a toute cette préparation en amont qui peut être mise en question, t'es mettre les joueurs dès les 15 jours, dès la semaine avant, en mode Ryder Cup. Et là, effectivement, en mode Ryder Cup, ben, au premier drive, mais c'est bien trop tard. C'est bien trop tard. La preuve.
Fabien Donoyan, tu veux réagir?
Ouais, je veux réagir parce que je suis... Il y a 2 ans, on pouvait dire exactement la même chose. L'esprit européen n'était pas tout à fait là et l'esprit américain était incroyable. Et d'où
Vas-y,
faux. Faux, c'est votre point de vue. Il ne faut pas déconner. On avait Rory McIlroy qui pleurait. Vous pouvez pas. Ils ont pris une branlée il y a 2 ans.
Ouais,
ils viennent d'en mettre une.
Mais dans le niveau de jeu, pas dans l'attitude, pas dans l'esprit d'équipe.
Mais pas du tout. On a vanté le fait que c'était une des premières fois et tout le monde vantait pour dire que c'était une des premières fois qu'on ressentait. Ton fameux boys band, Simon.
Le boys club.
Le boys band, le boys club. Voilà. Tu l'entends et tu le vois quand tout va bien, voilà, et quand ils jouent parfaitement leur terrain dès qu'ils sont en difficulté,
mais
les Américains.
Mais les Européens.
Il n'y a personne en équipe. Il n'y a pas d'équipe américaine.
Non, mais vous savez, comme moi, que de toute façon, recevoir est un avantage.
Bien sûr.
Donc, encore une fois, les Européens l'ont montré. Moi, il y a 2 joueurs qui m'ont halluciné et Dieu sait si je les ai allumés jeudi fort. Et ceux-là, et je leur tire mon chapeau parce que très sincèrement, dans l'attitude, dans la motivation, dans la paternisation des rookies, et ils ont été fantastiques. Et moi, un mec comme Rose qui mettait pas un cachou... Et le mec a joué fantastique. Un mec comme Laurie qui mettait pas un cachou et qui a joué fantastique. Mais ils n'ont pas seulement joué fantastique. Ils ont porté, pour moi, ces 2 mecs ont porté dans l'attitude. Et j'ai même envie de dire dans le jeu. Parce que quand tu ressens que tes maillons, je vais pas dire faibles, mais tes maillons un petit peu moins forts, sont en capacité de d'osser leur niveau de jeu. Et quand je vois que mon Bobby... a réussi.
Alors,
mon Bobby.
Bobby McIntyre.
Voilà. Et, il n'a pas fait l'éponge. Il est allé. Il l'a pas jeté. Il est allé jusqu'au bout pour gagner le match.
Non, mais avant de te laisser la parole, Martin, c'est aussi à mettre au crédit de l'Europe et du capitaine Donald. Je suis désolé, quand on a fait la sélection, qu'est-ce que j'ai pris dans la tronche quand j'ai dit que Rose, tu le prenais, que Laurie, tu le prenais, malgré effectivement des. Même si Rose, il a gagné une fois sur le PGA cette saison, malgré des performances décevantes. C'est un choix qui a été décrié, et ça encore, je suis pas sûr que chez les Américains, alors il y a eu l'exemple Justin Thomas, mais je suis pas sûr que chez les Américains tu vas chercher aussi profond des mecs comme ça, et ça, c'est la culture européenne. Je veux dire, Justin Rose, c'est on a dit pour Rose et Loris qu'on disait pour Poulter, et les mecs ils arrivent et ils deliver, comme disent les Anglais, ils produisent.
Ce que n'ont pas fait les Américains, c'est ce que tu regrettais d'ailleurs, en prenant que les meilleurs au classement et pas forcément des mecs qui pouvaient apporter cet esprit.
Demain, tu vas voir dans la presse US, ils vont dire il était où Bryson, Keegan Bradley, il était où Patrick Reed, ok, il touche pas un cachou, comme dirait Fabien, mais c'est des mecs, Patrick Reed, voilà, il casse le mur.
Mais ils auront raison de le faire. Hein.
Après, à 7 ans en foursomme, Patrick Reed, il ravage le bar de l'hôtel et il casse des chaises.
Moi, je suis quand même très curieux qu'on n'appuie pas sur le fait que les Américains n'ont pas encore compris, je crois, que la Ryder Cup, c'est un match par équipe. C'est pas un match individuel,
ouais,
un match par équipe.
Je trouve dur la marque.
Non, je suis pas dur. Regarde,
ils ont montré.
Parlons de la grosse branlée qu'ils nous ont mis il y a 2 ans. Oui, ils nous ont complètement, mais alors, dominé golfiquement parlant.
Ah, parce que tu trouves que les Européens. Non, mais excuse-moi, je peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça. Tu ne trouves pas qu'aujourd'hui.
Tu peux pas en placer une.
Mais c'est pas que tu peux pas en placer une. Tu dis des trucs qui sont pas justes.
Le niveau de jeu américain était largement au-dessus d'une autre. Il y a 2 ans. Et c'est le cas cette année en termes d'équipe.
Je vais tenter de poser une question.
Vas-y, je t'en prie.
Parce que j'aimerais bien la réponse. Tu trouves que sur les 3 jours. Le niveau de jeu européen n'a pas été. Le niveau de jeu intrinsèque, la qualité de frappe, de stratégie, n'a pas été supérieur chez les Européens ?
Mais bien sûr que si, largement.
Et ben alors,
largement.
Donc, il gagne 7 riders sur leur qualité de jeu, comme les Américains l'ont fait il y a 2 ans, et avec certainement beaucoup plus d'envie, et tu l'as noté, et j'y souscris.
J'ai compris. Laisse-moi préciser ma pensée. J'ai peut-être mal exprimé ma pensée. L'idée, c'est de dire, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, Fabien, les États-Unis qui arrivent en grand favori arrivent à l'extérieur, à Rome. La façon dont ils ont préparé en équipe cette Ryder Cup, c'est indigne d'une équipe. Arriver à 9 comme
complètement
ça,
d'accord avec
les
toi.
Mains dans les poches, faire 9 trous par-ci, 9 trous par-là, te retrouver avec des paires en 4 balles ou en foursome le samedi qui n'ont jamais fait une partie d'entraînement ensemble, explique-moi comment c'est possible.
Bah, l'arrogance américaine.
Oui, voilà, c'est pas une équipe ça.
Donc
ça, c'est pas une équipe qui prépare un match à l'extérieur.
Tu as parlé de niveau de jeu, Martin. Tu as parlé de niveau de jeu.
Bref.
Tu as mis en exergue le niveau de jeu.
Ce que je veux dire par là, c'est que l'esprit européen, malgré cette défaite-là, a toujours été présent. Les larmes de Rory, l'espèce de cohésion d'équipe européenne, cette espèce d'héritage, tu vois, qui vient de Severino Ballesteros, qui est cette figure tutélaire de l'équipe, qui est dans le vestiaire, qui a un tifo. On n'en a pas parlé samedi, mais ce tifo dans la tribune du 1, il me donne encore des frissons de dingue. Et qui, aux États-Unis, qui peut faire office de totem comme ça d'équipe ? Cite-moi un joueur. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe au côté américain. C'est ça le vrai problème.
Ramon,
il n'y a pas d'esprit d'équipe, ça c'est clair, mais peut-être qu'il faudrait aussi se retourner. Alors, pas uniquement contre le capitaine, pas uniquement contre Zach Johnson, mais peut-être également contre des mecs comme Zach Johnson et tous les vice-capitaines qui sont encore en activité, qui n'ont pas, je trouve, assez de recul sur la Ryder, sur le fait qu'il faut se préparer avant, l'esprit d'équipe et tout ça, parce que tous ces mecs sont encore joueurs. Alors, la plupart sont joueurs sur le Champions Tour, mais ils ont encore une mentalité de joueurs, donc ils ne vont pas du tout se mettre en porte-à-faux avec le capitaine parce qu'ils se basent sur des stats. Donc, des mecs comme Stryker, des mecs comme Couples, des mecs comme...
Attention avec Freddy Couples.
Oui, mais, je les adore, mais ils sont quand même joueurs. Donc, ils n'ont pas, je trouve, cette
hauteur de vue et ce recul. Les mecs aussi.
Oui, mais ils jouent moins.
Beaucoup moins. Ils sont retirés.
Champions Tour.
Ils se sont retirés de l'activité joueur. Donc, ils ont peut-être hauteur de vue. Mais ça, c'est pas nouveau chez eux. Donc, c'est pour ça.
Il y a un truc qui m'interpelle.
C'est un élément d'explication, en tout cas.
Mais c'est clair.
Mais où je te donne raison aussi, il y a un truc qui m'interpelle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Américains, alors que la Ryder est le truc ultime, ont divergé plus sur la President's Cup, où tu les sens, quand tu regardes une President's Cup, presque plus impliqués.
Mais oui, il n'y a pas match.
Mais évidemment. Voilà. Et moi, ça me dérange profondément.
Ils sont payés en President's Cup. C'est pour ça que
et alors, tu fais bien d'en parler. Parce que
il y a du pognon à prendre.
Et ça, très sincèrement, si c'est vraiment le cas, il y a eu des polémiques. Mais je ne comprends pas qu'on puisse jouer et être sélectionné pour une Ryder Cup en ayant comme point d'orgue ou comme motivation le fait, ou un dû quelque part, le fait d'aller gagner de l'argent. Et je les trouve plus impliqués en President's Cup. Tu parles des capitaines, mais regarde la President's Cup, on sent beaucoup plus d'émotion chez les Américains qu'on en sent dans la Ryder de
vous
cette
savez
semaine.
On va revenir sur cette polémique avec Patrick Cantlay, le fait qu'il ne porte pas de casquette. Aujourd'hui, les Américains ont voulu faire le show ce dimanche pour montrer à quel point ils avaient quand même de l'orgueil. On va en reparler dans quelques instants, mais revenons à notre débat. Je vous ai demandé si c'était surtout l'Europe qui a gagné ou les Américains qui ont perdu. C'est vrai qu'après la deuxième journée, samedi soir, on voyait mal quand même comment ces Américains pouvaient reprendre le fil de l'histoire et le fil de cette Ryder Cup. Et pourtant, est-ce qu'après cette journée du dimanche, ils peuvent avoir des regrets ? Est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir des regrets ?
Ah, ils peuvent avoir des regrets.
Oui.
Mais en fait, la journée d'aujourd'hui, et je crois que c'est Romain Langas qui l'a dit quand on l'a eu jeudi, c'est la parfaite illustration. C'est qu'à un moment donné, sur le tableau, il n'y avait que du rouge. Et les pro-européens, dont vous faites partie, messieurs, commençaient un petit peu à... Ça devient un petit peu compliqué, ça tourne mal. Et au moment où certains joueurs, d'ailleurs plutôt au milieu du tableau, donc au milieu des 12, ont commencé à gagner, les autres étaient ou one up ou one down, donc en possibilité à un moment donné d'enfoncer le clou. Et là, on n'a senti aucune révolte. Et j'ai même envie de dire, là pour le coup, mais où étaient les capitaines ? Où était le capitaine pour aller dire au mec, putain, accrochez-vous, on peut la gagner cette Ryder Cup. Soyez dedans, allez chercher, enfoncez, mettez la pression. Et non, On les a vus jouer un peu tous esselés. Et celui qui illustre alors parfaitement ça, c'est Ricky Fowler. Le mec, on avait l'impression qu'il était en partie d'entraînement.
Ça, il était là, Ricky Fowler.
Ouais, pas c'est. Et ça, ça.
Vous êtes méchant.
Ça, ça me. Mais... ça, ça me dérange profondément parce que je pense qu'à un moment donné de la journée. Ils étaient en capacité d'aller chercher.
Mais moi, je veux bien qu'on tape sur ce pauvre Ricky Fowler. Encore une fois, moi, il ne me fait pas vraiment vibrer. Je m'intéresse à lui parce que c'est le chouchou de mon professeur
de
golf. Mais vous me faites marrer. Un Morikawa qui n'a pas touché un cachou, comme tu dis, en trois jours et dont on attendait quand même beaucoup, beaucoup plus que un Fowler. Je suis désolé.
Oui, mais son point n'était pas important.
Il prend 4 et 3 contre Hovland. Il n'y a pas un moment dans le match où il le fait douter.
Mais rappelle le joueur. Rappelle-moi le joueur contre qui il a joué.
Il joue contre Hovland.
Hovland, ça fait deux mois qu'il marche sur l'eau.
Dans ce cas-là, tous les mecs qui ont perdu contre Poulter en match play, c'est des pampins.
C'est pas anodin qu'il ait mis Morikawa, qui est en très moyenne forme. C'est pas anodin qu'il ait mis en 3.
Sacrifié.
Parce qu'il savait très bien qu'il allait prendre un gros. Donc, évidemment, sacrifié. Il est conscient, Zach Johnson, qu'il était. Voilà, il prenait en 3, il prenait un très gros. Donc, il savait très bien qu'il le mettait au casse-pipe.
Alors, d'accord. C'est donc, Morikawa, c'est devenu le mec que tu mets parce que tu sais qu'il va
de
pas s'en
cette mettre. Semaine, oui. Au même
non,
titre
mais il
n'y
a pas que cette semaine. Il joue moins bien depuis un moment, Morikawa.
Je pense que ce pauvre Fowler, il n'a pas été pire qu'un Schauffele. Il n'a pas été pire que.
Mais c'est ce que l'on dit.
Je trouve qu'on est un peu dur.
Schauffele, il a gagné aujourd'hui.
Ouais, il gagne, ouais.
Alors, ce qu'on peut dire, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il a été malade.
Il gagne contre qui, Schauffele? À ce moment-là, tous les matchs peuvent être lus d'une façon.
Simon, tu peux juste constater qu'un Morikawa, depuis, j'ai envie de dire quelques semaines, mais presque quelques mois, n'est pas le Morikawa qu'on a connu.
Je vous ai dit que ce serait mon flop américain du week-end. Donc, tu prêches un convaincu.
Donc, tu es d'accord avec Ramucho et moi pour dire que Zach Johnson l'a sacrifié et en disant, on ne sait jamais.
On a tous regardé ensemble cette journée du dimanche. Martin Coulon, est-ce qu'à un moment donné, pour l'Europe, tu as eu peur?
Non, parce que quand tu sais qu'il y a 4,5 points à mettre sur 12. Et que quand tu vois ce premier match, en fait, moi, j'ai presque eu envie de te dire, voir Ram Scheffler aller jusqu'au 18 et voir que ça partage, là, tu te dis,
fantastique.
Voilà. Et si ce premier match-là était perdu au 18 par John Ram, là, c'était pas le même élan, la même saveur. Alors évidemment, tu te fais peur. Évidemment, au milieu, t'as des Koepka, t'as des même Spieth. Au bout d'un moment, même si t'as pas été foufou à la fin,
il était là aussi, Spieth.
Il était là pendant 5-6 trous. Il a fait un gros démarrage. Il met la tête sous l'eau de Shane Lowry assez rapidement. Enfin, voilà. Donc, tu te fais peur. Tu vibres un peu. Heureusement que tu vibres un peu. Voilà. Heureusement que pour la Ryder Cup et pour l'avenir de cette compétition, il y a eu un peu match cet après-midi et il y a eu un peu de moments où tu dis ouh là là, et si jamais il se passait un truc. Mais non, tu ne te crois pas un moment qu'on peut perdre.
Okay, ça passe un tout petit peu sous les radars, mais Jon Rahm qui ne perd pas contre le Scheffler de ce dimanche, c'est exceptionnel, je trouve.
Ouais, enfin c'est Ram, il a quand même pas joué comme un manchot, hein.
Non,
mais il se rendait coup pour coup.
C'est peut-être le match de la journée, hein. Franchement.
Ouais, clairement. C'est d'accord.
En termes golfiques,
en intensité et en golf, et puis dans le.
Il était capital.
Dans ce que ça représentait, ouais, bien sûr. Ça, c'est. Il était fondamental.
Et Scheffler, après la fessée qu'il prend hier, il joue pas l'après-midi et il dit à Zach Johnson, c'est bon, tu peux me mettre en 1, je le sens.
Et surtout avec son début de match. Avec son début de match, il y aura deux petits putts en 3 trous.
Ah ouais.
Il pouvait très vite prendre une. Encore, je me dis,
il pouvait couler.
Il va jamais s'en remettre, le pauvre. Alors qu'en fait, il est allé jusqu'au 18 et il aurait pu effectivement serrer la main de Ram en gagnant.
Sachez que dans quelques minutes, on fera notre petit jeu qui a été le cador de la Ryder Cup, le boulet, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté. Comme ça, on fera un petit tour d'horizon de ces 3 jours de compétition. Mais restons sur ce qu'a dit Martin Coulon sur le côté, heureusement pour la Ryder Cup, qu'il y a eu ce suspense. Franchement, une tôle des Européens infligés aux Américains, ça aurait fait très mal pour cette compétition.
Ah, ça aurait desservi la Ryder, ça c'est clair. Ça aurait desservi parce que la Ryder, c'est un match d'hommes, il y a toujours un peu de suspense malgré tout, mais là, effectivement, j'avais qu'une peur, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune réaction des Américains et que la Ryder se termine au bout de 3-4 matchs, quoi. Et on pouvait le craindre.
On y a cru au début de la journée. Hein, parce que
les cadors qu'il a mis au départ.
Tout s'allumait en bleu quand même. Hein.
Oui, mais pendant une heure, c'est quand même souvent comme ça.
Non, mais sans prendre parti pour une équipe ou une autre, c'est vrai que la Ryder en aurait souffert. Et là, elle a ressort.
Non, mais ça a été un dimanche fantastique. Ça a été un
fantastique.
Sans déconner. Et je suis d'accord avec toi, Martin. Moi, j'avais peur. Mais j'avais pas peur pour les Américains. Je m'en fous dans l'absolu. J'avais peur que cette Ryder Cup soit et deviennent ridicules. Et parce que les Européens pouvaient infliger mais la fessée du siècle. Et tu te dis, il y a eu de l'orgueil, les mecs se sont remis dedans. Et moi, je n'ai pas pensé, c'est vrai que je n'ai pas vraiment pensé que les Américains pouvaient gagner. Sauf que quand tu es Européen, et on a vu Donald, ça serrait un peu les fesses quand même. Hein. Il y a eu un moment donné, un momentum américain. Ça rentrait des putts, le public. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les joueurs, et c'est pour ça que jouer la Ryder à domicile, c'est extrêmement important. Quand les Européens font un coup fantastique et qu'ils sont à domicile ou rentrent un putt, ou qu'il y a une clameur, mais qui était au trop numéro 3. Et je pense que tu es au Vatican. On l'a entendu, quoi. Le pape, d'ailleurs, je crois, a envoyé un texto à Luc Donald en disant, j'espère que ça ne va pas durer toute la journée.
Ça a gêné Cantley qui s'est relevé, qui a fait un mauvais coup juste après. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais c'était vraiment le timing, la douleur, la clameur l'a vraiment perturbé, oui.
Simon Dutin, tu
sais. Bah non, c'est ce que je disais un petit peu dans les deux putts, là, en début d'émission, c'est que c'est la magie de cette épreuve, parce que il y a effectivement un moment de l'après-midi, Rahm, il a partagé avec Scheffler, on se dit donc, Hovland a gagné, Rory, il va gagner, Hatton va gagner, donc t'as 3,5 points, t'en fallait 4,5, et t'arrives, tu regardes le tableau, t'arrives quand même à te dire,
waouh,
ça va quand même être chaud. Donc c'est fabuleux, crédit aux Américains qui ont prouvé que voilà, dès qu'ils jouent pour leur gueule, entre guillemets, sans se préoccuper du copain, a priori ils sont meilleurs que nous, mais je pense que Luc Donald, on l'a vu, il était tendu, hein, il était pas bien. Hein.
Les Américains, ils devaient peut-être commencer la compétition avec les 12 simples.
Mais tu as raison
le
de dire
vendredi,
ça.
Ce serait peut-être mieux
mais,
pour
mais,
eux.
Mais tu as raison, JC, de dire ça, parce que si l'Europe démarre pas comme elle a démarré...
Mais tu te rends compte, ouais.
Rigole que ça, tu sais que c'est pas, j'allais dire con, un gros mot, c'est pas bien. C'est pas débile hein, ce que tu dis.
Oh, mais
parce que
ce serait pas terrible quand même.
Non, ce serait très bizarre.
On aime cette journée du dimanche.
Mais ça remettrait justement cet esprit d'équipe, ce côté équipe, un peu plus sur le devant de la scène.
Eh bien sûr, tu finis en équipe le dimanche.
Ah là, tu ça finis en équipe. Bonne remarque de l'amiral.
On tient quelque chose.
Ouais, on fait
peut-être.
Un truc.
Je voudrais qu'on revienne également sur cette polémique. On en parlait dans le podcast samedi soir sur Rory McIlroy qui s'est énervé juste après sa partie. Il en voulait notamment au caddie de Patrick Cantlay, Lacava. Évidemment, Joe Lacava, célèbre caddie de Tiger Woods. On a senti que les esprits commençaient à monter. Il y a eu cet épisode avec Patrick Cantlay de la casquette et cette célébration désormais des Américains, tout ce dimanche, hein, notamment emmené par Justin Thomas. À chaque fois qu'il gagnait un trou, il levait sa casquette. En tout cas, il faisait mine de prendre sa casquette pour saluer et chambrer le public européen. Est-ce que vous avez trouvé, ou ça fait partie du jeu peut-être, les Américains très agaçants sur ce côté-là?
Moi, mais non. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est... Ça fait partie de la Ryder. Il y a des quand on le chambrage. Moi, sincèrement, les images, je les ai encore regardées. Peut-être
c'est pas flagrant.
Peut-être
pas
très mal, mais je trouve que c'est absolument pas flagrant. Moi, j'ai surtout l'impression que Rory, il est vexé d'avoir perdu son match. T'es d'accord avec moi, Simon?
Ouais, non, vous parlez du 18 avec le caddie de Cantlay qui vient un peu chauffer Rory McIlroy juste avant
voilà,
son match.
Et n'oubliez pas, on a fait un podcast où je ne me souviens pas du psychologue ou de son nom, je suis navré.
Julien Fichot-Lefort.
Merci Martin. Et souvenez-vous, il avait mis en exergue que Rory avait une attitude de gamin parfois. Et pardonnez-moi, mais l'attitude qu'il a après, si t'es un grand monsieur, si t'es aussi fort dans ta tronche et de ton équipe, mais surtout, tu fais pas ça. Parce que quelque part, en se fritant après la partie, moi, j'ai trouvé qu'il faisait plutôt le jeu...
Ça a fait le tour du monde. Hein,
voilà, mais je trouve qu'il a plutôt fait le jeu des Américains qui ont dû trouver ça un petit peu, effectivement...
Puéril,
et puis ridicule, et puis attends, le mec, c'est Joe Lacava, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa langue dans sa poche et il ne va pas se laisser se déstabiliser, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs sur le green, parce que ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne sait pas, le mec il célèbre, mais tu as envie de dire que les Européens n'ont pas célébré sur les greens et machin quand ils ont gagné.
Donc, j'ai entendu beaucoup de commentaires en disant ça ne se fait pas, un caddie n'a pas à gêner un joueur.
Clairement, mais
il a pas gêné.
Il le sait, Lacava. Hier soir, il le sait. Moi, je pense que.
Tu trouves les images flagrantes?
Je trouve pas ça flagrant. Je trouve que venant d'un mec comme Lacava, dans une épreuve comme ça, face à Rory, ils se connaissent tous, les mecs. C'est pas respectueux quand les...
Mais qu'est-ce qui n'est pas respectueux? Mais moi, je le vois
de
pas
célébrer
marcher
comme
ligne.
Ça avec la casquette. Il est dans la ligne de Rory. Rory lui demande d'arrêter et de.
Mais sur les
et
images, pardon. Sur écoute, les images, on le voit pas qu'il est sur la ligne parce que regardez bien les images.
En tout cas, c'est ce que les témoignages du camp européen disent.
Oui, non, mais d'accord.
Écoute, Rory, de toute façon. Voilà, Rory, ils se sont un peu attrapés sur le parking. Je pense que la cava, il a un peu exagéré. Je pense qu'il y avait de la fatigue nerveuse des deux côtés
et de la tension des Européens qui voyaient les Américains revenir.
Mais oui. Et après, la cava, c'est une tentative aussi, je pense,
d'intimidation.
Ouais, non, mais je pense qu'ils se disent
de remobiliser l'équipe.
Partir, parce
bien
que il y a une image quand même avec la cava, avec 10 joueurs européens devant lui, plus d'autres caddies et tout. Genre, il a réussi à foutre les nerfs à 15 mecs de la Team Europe en même temps. Je pense qu'à l'hôtel américain, on était content. Je pense qu'il a un tout petit peu dérapé. D'ailleurs, ce dimanche, tu sais, dimanche matin, NBC annonçait que Rory et la cava s'étaient parlé, sous-entendu, tout allait bien, machin. Et Rory, au bord du grill, on lui a dit « Alors, vous êtes parlé avec Joe ?» Il dit « Non, non. »« Ah bon, vous n'êtes pas parlé ?» Il dit « Non, on ne s'est pas parlé. » Il a bien insisté. Et il a fini par préciser que ça avait donné la gouache aux Européens, to get the job done. Il a dit, ça nous a donné de la motivation pour les finir dimanche.
Martin Coulon sur cette histoire.
Pour moi, il y a deux erreurs fondamentales. Une, c'est une erreur de comportement. Un caddie ne doit jamais interférer dans le cours du jeu, ce qui a été le cas. Même s'il n'a pas interféré sur sa ligne, même s'il n'a pas marché dessus, machin bidule, il était tout proche à un moment quasi clé, à un moment quasi...
Il ne peut pas fêter le putt de son joueur.
Pas à 30 cm du joueur adverse qui a encore
mais
un
putt à
jouer.
Mais il n'était pas à 30 cm, putain, mais là, vous êtes...
Attendez.
Non, je suis un peu le Marseillais. À 2 mètres.
Ouais, 4. En fait, c'est comme tu fais Thierry David, en fait.
Quand t'es
à 15 mètres, tu dis 4 mètres.
Il a fait là-dedans, le pauvre, il n'a rien à voir là-dedans. Et quand on te demande gentiment une première fois, s'il te plaît, mec, tu me gênes, je te vois visuellement, je te vois pas dans ma ligne. Ça se voit, il lui dit « gêne ». Je ne sais pas exactement ce qu'ils se sont dit, je n'ai pas été voir le lip language des deux, mais tu sens que Rory lui dit gentiment « mec, t'es un peu proche, là. J'ai un pote à jouer. Moi, j'ai un pote à jouer, mon partenaire a un pote à jouer. Que vous fêtiez le truc, que vous soyez content, c'est normal, ça c'est la rider. » Oui, j'aime bien qu'il y ait cette espèce de fight un peu là, y compris des caddies ou quoi qu'est-ce. Mais
surtout
un caddie ne doit jamais interférer dans le cours du jeu. Bref, et deuxième truc pour moi qui est une erreur fondamentale, c'est que ça a rappelé aux Européens, que le lendemain, il y avait encore 12 simples et que les gars, ils étaient chauds patates. Et que donc, il y avait peut-être 4 points à mettre, machin bidule, mais qu'il fallait être sérieux dans nos affaires, comme dirait l'autre. Ah ouais. Donc ça, pour moi, de la part de la cava, c'est une double erreur. Voilà.
Ok, Ramoucho.
Peut-être pour conclure, si je puis me permettre, j'achète 150 fois le comportement peut-être excessif de Rory, qui vit la chose, qui, voilà, il a peut-être été un petit peu...
Tu parles de la cava ou de Rory?
De Rory, le comportement de Rory, la réaction de Rory, mais qui vit à 2000% la rider, que certains comportements très, très, je m'en foutisse de la part de certains joueurs qui prennent la Ryder Cup par-dessus la jambe. Voilà. Donc, j'achète 150 fois le comportement de Rory McIlroy.
C'est une pratique.
Pour qu'à 10,5, 5,5, Rory se mette quand même dans cet état à la fin de la partie, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui l'a dérangé. Je pense que ce n'était pas pour chercher la petite bête.
Oh, la petite princesse. Hein,
non, mais
attention à la prochaine.
Attends,
oh, la petite princesse.
Vous pensez vraiment que c'est une pleureuse, Rory, qui
aurait... Je pense que c'est une pleureuse, ouais.
Bon, bah d'accord.
Je vous écoutais, je reprends la main, s'il vous plaît. Le Practice RMC spécial Ryder Cup, c'était la 44e édition et la victoire de l'Europe, 16,5 à 11,5 face aux Américains. Et je vous propose maintenant de partager ensemble un petit jeu. Vous allez devoir me donner un nom qui a été le cador de la Ryder Cup. Martin Coulon.
Rory McIlroy, justement.
Ramoucho Artola.
Victor Hovland.
Sans aucune hésitation possible, Victor Hovland.
Simon Dutin.
Ah, j'allais donner le Norvégien rieur également, mais pour rendre honneur à tous les leaders, je vais dire Jon Rahm.
Pourquoi Rory pour toi, Martin Coulon?
Déjà pour l'épisode qu'on a un peu évoqué il y a quelques instants, parce que mine de rien, c'est un moment... De team building, tu sens qu'au-delà du côté un peu gamin qu'on peut voir dans cette réaction-là que Rory a eue avec cette altercation qu'il a eue avec le caddie de Cantlet, tu te dis voilà, ok, mais ça compte pour lui. Et ça compte d'autant plus vu la volée qu'ils ont prise sur la Ryder Cup précédente à Whistling Straits, où on se souvient que Rory Il éclate en sanglots, le type. C'est pas des petites pleureuses, mais tu vois, le gars, ça compte pour lui de se prendre des volées comme ça.
Tu vois que c'est une pleureuse.
Ouais, c'était une pleureuse, excellent. Mais parce que ça compte pour lui. Tu vois beaucoup d'Américains pleurer, toi, après les grosses défaites, à part Scottie Scheffler qui avait fait une demi-petite larmouchette, on sait même pas s'il a trop pleuré. Bref, c'est un détail. Et au-delà de ça, il y a le bilan comptable. 5 matchs, 4 victoires, une défaite, one down au 18. Ok ? Donc le mec, c'est non seulement un patron, mais en plus, j'ai pas eu l'impression de le voir développer ce que j'appelle moi son A-game, qui est un espèce de jeu sans aucune faille ou quoi au caisse. Là, c'est exactement ce que disait Ramucho hier dans le podcast précédent. On l'a vu jouer au golf, quoi. C'était le pur Rory McIlroy, joueur, golfeur, impliqué, équipier modèle. Je sais pas, ce gars-là, c'est pas l'âme de l'équipe européenne, parce que pour moi, elle est un peu plus du côté de John Rahm, parce qu'il y a un peu plus de folie, un peu plus de feu, et encore. Mais dans ce qu'il a montré là cette semaine, c'est Rory le boss, quoi.
J'ai deux Victor Hovland là. Qui veut se lancer, Ram ou Short là ?
Victor Hovland, parce qu'il était très attendu malgré tout, même si c'est la seconde Ryder Cup. Il était passé complètement à côté dans la précédente, à Whitling Strait. Il était très attendu. Inutile de vous dire, vous avez vu qu'il était largement rendez-vous et encore plus. Donc il a été irréprochable là-dessus. Il a été irréprochable en tant que... En tant qu'ancien, puisqu'il a chapeauté quand même Ludovic Oedberg. Ludovic Oedberg, oui, je ne me trompe pas.
Ludovic
Oedberg. dans ses doubles, sans parler de la raclée mémorable qu'ils ont infligée à Scotty. Donc il a été parfait en double, en simple, puis au niveau du jeu, du driving, au putting, il était en difficulté, ça en est sorti. Quand il a fallu fermer la porte, il était là. Il a mis des coups extraordinaires, il a marché sur l'eau cette semaine.
Il a changé de dimension sur cette Ryder Cup.
Mais il est stratosphérique. Enfin, je vais pas être hyper original, je vais essayer de le dire différemment de ce que vient de dire Ramucho, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté du parcours, la difficulté quand on touche pas les greens d'aller sauver le par ou le birdie en fonction du trou. Mais il a un niveau de petit jeu et de capacité surtout à varier sa façon de pouvoir faire ses approches. Moi, il y a un truc aussi qui m'impressionne. Alors, c'est sa bonne humeur, c'est son côté très insouciant quand on le voit sur le parcours, mais il a l'œil du tigre. C'est-à-dire que ce mec-là,
le carnassier.
Moi, ce mec-là, mais je rêverais de pouvoir passer un moment avec lui, parce que tu as l'impression que c'est une tronche de vieux dans un corps de jeune, de vieux, mais sur le côté expérience, et également... Enfin, c'est un compétiteur. Oui, il a pris une... Pour moi, c'est le patron.
C'est le patron, il a pris une nouvelle dimension. Est-ce que ça peut le débloquer, ça, pour un majeur ? Parce que forcément, c'est ce qu'il attend. Ça fait plusieurs fois, un an et demi.
Clairement,
qu'on attend qu'il en fasse
trop bien. C'est une autoroute. Mais le mec rate pas. Le mec, même quand il drive à droite ou à gauche, il se recentre, il est à 150 mètres, il met le coup de fer donné. Enfin, il y a un moment donné, quand vous connaissez la difficulté du jeu, alors déjà, quand on joue, et c'est pas la Ryder, c'est pas la même pression, on la met pas à 50 cm, mais lui, il le fait pas une fois. Il l'a répété pendant 3 jours. Et je crois que ça a été d'hier. Il rentre le chip, qui lance l'Europe vendredi matin. Il lance l'Europe. C'est-à-dire que le mec, il fait une approche hallucinante.
Mais il est dans sa Ryder depuis qu'il a arrêté la FedEx, depuis qu'il a planté la FedEx.
Mais
il est déjà dans sa Ryder. Il est allé jouer à Wentworth. Ouais, il était en mode je suis en mission, quoi, vraiment. Et parce que je suis certain quand même qu'il a traîné comme un boulet sa contre-performance à Whitley Strait, où il n'a eu que des défaites. Voilà, donc il était très attendu et il ne voulait surtout pas décevoir.
Moi, je voudrais juste... Il était un peu moins attendu qu'un Rahm ou un Rory.
Mais je ne suis pas certain.
Je ne suis pas d'accord avec toi, Fabien, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que indiscutablement le meilleur joueur du monde depuis 2 mois,
non, mais je te parle pas
et que tu arrives à la Ryder et que tu confirmes que tu es toujours le meilleur,
je ne te parle pas du niveau de jeu. Je te parle de la taille patron.
Mais justement,
c'est-à-dire que la taille patron... On peut facilement la donner à un Rahm, et il en impose, il est charismatique. Mais un Rory, évidemment, pour la carrière qu'il a. Mais quelque part, et Ramucho vient de le dire, on espérait l'attendre. Mais le côté taille patron, du mec charismatique, du mec qui est capable à un moment de dire « Hey, les gars, vous pouvez compter sur moi parce que moi je vais gagner.
C'est là qu'il a été le plus impressionnant, je suis d'accord, parce que effectivement il est passé du stade du jeune plein de talent au patron qui emmène les autres avec lui, et on l'a vu effectivement avec les fist bump, tu vois, il a face à la foule, il a la rage et il est allé chercher la foule et il a emmené les mecs derrière lui.
Et si on lui associe Auberg, c'est pas Nost non plus, parce que là c'est la pépite à venir. Donc, il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas qu'il s'abîme non plus en rider.
C'est dire la place qu'il a pris dans cette équipe.
La place qu'il a pris et le pouvoir qu'il va prendre, voilà.
On le sait, c'est toujours aléatoire d'aller gagner un majeur. Il y a beaucoup de joueurs capables de le faire. Il faut être prêt le jour J, j'ai envie de dire les 4 jours de ce majeur. Est-ce que, pour toi, ce qui vient de se passer, ça va changer sa carrière, Martin Coulon ?
Moi, ce qui va changer sa carrière, c'est la qualité de son petit jeu. Tu l'as extrêmement bien souligné, Fabien, tout à l'heure. Il a énormément progressé, c'était quasiment son seul talon d'Achille, parce que ce gars-là, c'est un lanceur de flèches depuis qu'il est amateur de très haut niveau et qu'il a gagné l'US Amateur, c'est une machine de guerre. Et il lui manquait une qualité de chipping, il lui manquait une variété de chipping, il lui manquait ce chipping de niveau mondial qu'il a atteint, comme par hasard depuis quelques mois, et qu'il a confirmé sous pression à la Ryder Cup. Donc oui, clairement... C'est depuis quelques mois, quelques majeurs, c'est un prétendant sérieux. L'année prochaine, c'est pas qu'il faut compter sur lui, c'est presque limite à se demander combien il va en planter.
Avant de passer au boulet de la Ryder Cup, il y avait un Jon Rahm quand même, bon, évidemment.
Quand même, vous voulez pas en parler, Jon Rahm, non, il vous a pas...
Allez, vas-y, Simon, fais pas la tête.
Non, mais je fais pas la tête,
si,
les mecs.
Si, tu faisais la
vas-y. Non, mais les gars, je vous laisse donner vos flops et tout.
Vas-y, sur Jon Rahm.
Jon Rahm et les mecs. Jon Rahm, on disait oui, il est plus dedans ces derniers mois. Ok, peut-être qu'il a été un tout petit peu moins performant que Hovland, mais Jon Rahm, c'est lui qui démarre vendredi matin contre Scheffler. Il lui met 4 et 3, Scheffler et son copain. L'après-midi, il met 2 et 1 à Cantley-Schauffele. Et dimanche matin, c'est lui, encore une fois, qui part en 1 en sachant que tu vas avoir du très lourd et que les Américains sont remontés comme des coucous. Il a été extraordinaire parce que je pense que c'est lui le co-leader de cette équipe. Quoi, c'est dans la lignée de la tradition espagnole avec tout, la chaleur, le buffle, il a tout ce qu'il faut en magasin. C'est vraiment le joueur de Ryder par excellence pour moi.
Ok, qui a été le boulet maintenant de la Ryder Cup? Je voudrais un nom, s'il vous plaît. Pas cadeau, hein? Pas cadeau de donner un nom. Ah si, Simon Dutin.
Jordan Spieth.
Fabien Donoyan.
x2.
Martin Coulon.
J'aurais tendance à dire Colin Morikawa.
Je sens Kramucho a le cœur qui saigne. Tu vas nous dire
Wyndham Clark.
Je m'attendais à...
Oui, mais on a déjà tapé, on ne tape pas sur un amateur.
Sur Rocky Fowler.
On avait déjà assaisonné le pauvre déjà.
On ne tape pas sur Rocky Fowler.
Si, mais on...
Wyndham Clark.
Qu'est-ce qu'il fallait déjà.
C'est un rookie quand même, les copains. Alors pourquoi Jordan Spieth, Fabien Denoyan?
Parce que ça a été l'ombre de lui-même. Et encore une fois, il aurait pu être un héros pour les États-Unis en ce dimanche parce qu'il avait la capacité d'aller chercher un point qui était mais capital. Capital évidemment pour son équipe, capital pour les grands tableaux qui auraient commencé à faire taire le public européen. Et le mec, mais sincèrement, quand tu sais la capacité, le talent, le génie de ce garçon, j'ai simplement envie de me dire, est-ce qu'on n'a pas perdu le petit Jordan? Et il va falloir qu'il rebondisse rapidement. Tout à l'heure, on parlait de Jon Rahm. Hein, mais moi, je trouve qu'il s'est un peu embourgeoisé, notre ami. Je dis ça parce que souvent, on dit des boxeurs qu'à un moment donné, comme c'est très très dur, quand ils commencent les poids lourds à moins gagner, qu'ils s'embourgeoisent. Et moi, j'ai l'impression que... Alors attention, je pondère aussi mes propos, mais...
Il a moins faim.
Ouais. Plus famille, plus saison. Mais moi, je trouve ça également... Mais on sent pas... Si tu prends l'exemple, ils sont trois potes, trois énormes potes. Ricky Fowler, Jordan Spieth et Justin Thomas. On a vu que Ricky Fowler avait été en capacité de revenir parce qu'il fait une saison magnifique. Il fait une mauvaise Ryder Cup. Il a été malade, c'est pour ça que comme Ramucho, moi je ne vais pas tirer sur l'ambulance parce qu'il a peut-être vraiment été malade et on sait tous que c'est pas simple.
Donc quand tu prends les trois, tu te dis...
Mais clairement, tu vois un Thomas qui... Mais Thomas, il n'était pas du tout dans l'équipe. Et comme l'a souligné Martin plusieurs fois...
Il fait une bonne Ryder Cup.
Mais il fait une Ryder Cup de malade mental. Il porte l'équipe américaine. Et Jordan Spieth, mais le mec, tu sais, avec sa démarche, t'as l'impression qu'il se balade sur le parcours, il saute, machin, mais il a rien apporté. Rien.
Ok, Simon, pareil, Jordan Spieth.
J'ai pas grand-chose à ajouter. Il a été décent. C'est un des mecs qui doit tirer son équipe vers le haut parce que, ok, t'as du Scheffler, t'as du Koepka, mais lui, je le répète, je l'ai dit toute la semaine, c'est sa cinquième Ryder Cup. Hein. C'est un mec qui a commencé très jeune, mais qui est arrivé avec un gros bilan. 8 victoires, 7 défaites, 3 nuls, il repart. Il est à 8 victoires, 9 défaites. 5 nuls, c'est un monstre en 4 balles. Il était à 5 victoires, 2 défaites. En President's Cup, il avait fait 5 victoires, 0 défaites. Bon, alors ok, il vient d'être papa, ça lui a servi d'excuse pour pas venir reconnaître le parcours, mais il a laissé tomber son équipe. Il est temps justement d'assumer un statut que visiblement il a pas envie d'assumer ou dont il n'est pas capable d'assumer visiblement.
Ok, tu m'as dit qui, Martin Coulon?
Colin Morikawa. Tu sais, c'est un Américain qui jouait pas mal normalement.
Oui, tu veux remettre une petite couche sur Colin?
Bah pff, oui, une petite couche. Moi, ce qui m'embête, c'est que c'est un bonhomme qui arrivait de la précédente Ryder Cup. Avec le statut d'invaincu, mais le souci, c'est que son partenaire de double, c'était Dustin Johnson, et qu'il n'y a jamais un moment où j'ai eu l'impression que Colin Morikawa avait trouvé un nouveau partenaire de double. Et le voir prendre une victoire, trois défaites en quatre matchs, un joueur de ce calibre-là, même si, encore une fois, il est un peu transparent depuis quelques temps, c'est pas le Colin Morikawa d'il y a un an et demi, deux ans, mais le voir aligné en deuxième simple le dimanche, quand tu sais que les États-Unis doivent mettre 8,5 points, je veux bien qu'on sacrifie, mais ça veut dire quand même qu'il a une certaine confiance de la part de son équipe. Et il tombe sur Victor Hovland qui est en feu, qui lui met de moins 6 dans la tronche pour une défaite, pour une victoire 4-3. Morikawa, il ne met que moins 2 sur la journée et il gratte des approches en veux-tu en voilà. Et il a été inexistant fer en main alors que c'est sa grande qualité. En termes de niveau de jeu, pour moi, il était pas dedans. Quoi. C'était
ouais, mais je trouve, quant au choix du capitaine, on l'a dit tout à l'heure, je pense, quelque part, je suis certain que Zach a dû se dire contre Hovland, c'est Morikawa.
Mais de toute façon, il allait s'en prendre un gros. Ça n'a pas de sens, cette
petite sacrifier.
Mais non, tu ne sacrifies pas. Au contraire,
moi,
tu veux mettre des plans directs.
Ouais.
Tu dois mettre 8,5 points. Tu ne vas pas dire, attends, je vais mettre en deux, il va y avoir un gros. Attends, donc ça veut dire qu'on va se perdre un pion, mais ce n'est pas grave.
Oui, mais regarde,
on
l'a dit.
Quand tu mets Morikawa en deux, il faut qu'il y aille. Et il n'y a pas été. Et comme dans toute sa Ryder, il n'y a pas été. Donc pour moi, il est passé à côté.
On l'a dit tout à l'heure quand on regardait. Que moi je trouve le coup de maître de Luke Donald, c'est d'avoir mis Fleetwood en avant-dernier partie, parce que quand ça commence à tourner mal, le mec était lui en capacité et
de faire gagner l'équipe, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. C'est lui qui ramène le point. Hein.
Mais je pense que c'est la même logique avec Laurie qui joue juste avant lui, je crois, ou deux parties avant lui. Je pense que t'es quand même obligé de mettre un ou deux papas en queue de peloton.
Exactement. Ouais.
Rapidement, très rapidement sur Clark.
Oui, Dame Clark, par rapport à ses déclarations un peu impétueuses de pré-Ryder Cup, hein, qui justifiaient un certain niveau de jeu par rapport à d'autres joueurs. Bon, bah, résultat des courses,
Rory McIlroy.
Une victoire grâce à Cantlay. Il a raté quelques mauvais coups décisifs. Il n'était pas présent psychologiquement. Donc, c'est ce qu'on attend d'un membre de Ryder Cup. Et puis voilà, puis il a fait beaucoup de mauvais coups. Puis il perd aujourd'hui contre McIntyre en 12. Voilà, donc un bilan pas très glorieux.
Il va peut-être se la traîner longtemps, hein, sa déclasse sur Rory.
On poursuit le débrief du Practice RMC spécial Ryder Cup. C'est forcément le dernier numéro. On célèbre la victoire européenne, la 44e édition. Qu'avez-vous le plus aimé dans cette Ryder Cup? En un mot, un petit tour de table. Vous connaissez le principe. Martin Coulon.
Dans la Ryder au sens large, moi, bah, je ne vais pas être très original. C'est l'esprit que dégage l'équipe européenne. C'est... je sais pas, cette espèce de passion, cette espèce de recette qui se transmet d'équipe en équipe, de génération en génération, et qui perdure et qui permet ce genre de match de folie, quoi.
Ok, l'esprit européen. Simon Dutin.
C'est quasiment du mot à mot comme Martin Coulon. J'ai noté l'amour de l'Europe pour la Ryder Cup. Je pense que souvent ça fait la différence.
Ça fait du bien de parler d'amour dans cette émission.
Mais je parle des joueurs,
des capitaines et du public, parce que le public européen, il est...
Et même entre nous, il existe cet amour.
C'est vrai qu'il y a de l'amour entre nous.
Mais bien sûr, Fabien Denoyan.
Je vais pas être hyper original, mais moi, je voudrais dire la Ryder Cup au sens large. Cet événement qui te fait quasiment plus vibrer qu'un match de Champions League, c'est extraordinaire.
Ramucho Artola.
Une Ryder Cup ne peut pas être grande et fantastique sans un parcours. Alors là, le Marco Simone, il s'est prêté.
Ah, c'est vrai que c'était beau.
Vachement. Parce qu'il ne te laisse pas de répit. En même temps, tu as un équilibre entre des par 4 que tu peux prendre en 1, mais où c'est risqué. Des longs trous où il faut faire parler la poudre. Mais en même temps, si tu t'écartes, tu es pendu dans le rough. En même temps, si tu rates un green, y a toute la créativité des joueurs qui est mise à contribution. On a vu des coups fantastiques grâce à leur talent, mais grâce justement à ce dessin de parcours qui est absolument magnifique pour un format match play.
Quand est-ce qu'on y va?
C'est ce que j'allais dire. Vous savez quoi? On va s'organiser une partie tous ensemble là-bas, le Practice RMC, non? Ça donne envie d'y aller, franchement.
C'est déjà dans les tuyaux.
Fabien est un cador. C'est lui le cador de la Ryder Cup. Bravo.
Avec un cas.
Franchement,
avec un cas.
On va tous aller jouer là-bas. Moi, je veux bien un partenaire, s'il vous plaît, parce que tout seul, je ne suis pas sûr d'y arriver.
Mais non, mais on joue en foursome. C'est une formule simple, puis on va faire l'aller-retour pour jouer un coup sur deux, dans la journée.
Ok. Maintenant, ce que vous avez détesté durant ces 3 jours de compétition, à vous de me dire. Simon Dutin.
Le retour des clichés sur la team USA. Voilà, l'arrogance, les mecs qui reconnaissent pas le parcours, qui se croient certainement plus forts que les autres, qui montrent que finalement ils ont pas tant progressé que ça en équipe, qui à aucun moment montrent un signe de rébellion quand ils prennent la douche dans les matchs par équipe et voilà. Et puis après, même si je suis d'accord, moi ça m'a agacé ce dimanche, et c'est de bonne guerre, Justin Thomas, qui fait la vierge effarouchée parce qu'il s'est fait chambrer par le public européen, qui fait le signe de la casquette toute la journée dès qu'il ne rate pas un coup, tu vas voir le public à New York dans 2 ans, je pense que...
Pire public.
Déjà, c'est ce que j'entendais, ce que j'ai appris, mais je veux dire, quand tu fais ta... tu vois, ta... je cherchais autre chose que vierge effarouchée. Tu sais, on dirait qu'il a été choqué par le chambrage. Très bon enfant, moi, je trouve, du public européen. Quand tu vois ce que le public américain est capable de produire, je trouve qu'ils ont un peu exagéré.
Ok, rapidement, ce que vous avez détesté le plus durant cette Ryder Cup, Martin Coulon.
Ouais, c'est l'absence de cohésion, l'absence de jeu d'équipe des Américains, surtout quand ça se passe pas bien. Ok, bien sûr, les Européens peuvent être largement au-dessus en termes de niveau de jeu, ce qui a été le cas pendant pas mal de sessions. Mais il y a un moment, cette rébellion, cette espèce de côté, voilà, même aller chercher un truc un peu limite, un peu border, mais se rebeller, quoi. Tu vois, dire, oh les gars, on se fait marcher sur la gueule, quand est-ce qu'on réagit, quoi? On peut, c'est pas grave, de toute façon on est nul en équipe, on fera les simples, il y a 12 simples, ça va le faire. Non! Faut que ça réagisse beaucoup plus tôt et beaucoup plus fort. Et là, peut-être le capitaine et peut-être aussi l'entourage et encore une fois, peut-être à pointer du doigt sur ce côté-là, sur cette rébellion qui a tardé, qui est venue beaucoup trop tard.
Fabien Denoyan. La même ou
ouais,
autre chose?
Ouais, j'ai pas grand-chose. Je suis vraiment d'accord avec les copains. Moi, je suis extrêmement déçu parce que ça n'a échappé à personne que je plaçais les Américains favoris. Et c'est une énorme déception de voir des mecs individualistes, arrogants. Merde, quoi.
Ramucho Artola.
Il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu, au contraire. Mais s'il y a quelque chose à retenir de négatif, c'est cette petite polémique ending de la Ryder Cup, la fameuse casquette gate de Patrick Cantlay, qui a traîné comme ça pendant 3 jours et qui a fait sortir des gonds de ses gonds, monsieur Justin Thomas, qui lui a... Ça ne lui ressemble pas du tout, ce comportement. Donc voilà, cette petite polémique qui a été reprise par la presse et tout ça. Donc vraiment indigne du standing Ryder Cup.
C'est vrai, indigne, mais en même temps, ça fait le sel de la Ryder Cup.
Mais c'est Ryder Cup story.
Ok, on a débriefé donc cette victoire européenne, je le rappelle, 16,5 pour les Européens, 11,5 pour les Américains. Avant de se quitter, je voudrais saluer une amie, elle s'appelle Véronique Chaplin et elle est avec nous en direct sur RMC. Bonsoir Véronique.
Coucou les amis, ça va?
Très bien Véronique, nous allons très bien. Nous t'avons au téléphone car il y a un événement, ça se passera le 10 octobre prochain au golf de Courson en région parisienne. Il y a le tee break gourmand. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Alors, dans la lignée des tea breaks depuis 30 ans, qui sont des événements 100% caritatifs, qui rassemblent beaucoup de sportifs de haut niveau, dans un esprit ultra convivial, l'esprit d'équipe qui a fait gagner l'Europe. Voilà. Donc, le mardi 10 octobre, au YouGolf de Courson, un scramble à 4, mais pas que. Il y a 80 compétiteurs qui viennent pour la bonne cause, qui sont passionnés de golf et qui aiment bien manger. Il y a un 19e trou, un concours de cuisine, et pendant 30 minutes, les compétiteurs vont composer les apéros food avec leur équipe de 4. Il y a des grands chefs cuisiniers qui seront là en tant que jury pour à la fois leur donner les conseils, mais leur donner les points. Il y aura des points de goût, de santé et d'esthétique. Et derrière, il y a des enchères caritatives. Et j'ai une grande nouvelle, parce qu'on a un très beau maillot de rugby. Et nous avons le maillot de Bogossian, le troisième maillot de la finale de la Coupe du Monde 98 que je viens d'acquérir. C'était la nouvelle du jour.
Et ben c'est parfait. Véronique, je rappelle que c'est au profit de l'association SOS Gazelle. Ça s'appelle le Tea Break Gourmand. C'est très important car ça vient en aide aux enfants. Voilà, ça peut leur permettre aussi de voir autre chose, de partir en vacances, mais également dans leur scolarité avec une vente aux enchères. Est-ce que, on va dire, tout le monde peut y participer à ce Tea Break, Véronique?
C'est ce que j'allais te dire. Et cette année, comme ce sont que des sportifs, des pros et des amis et chefs, nous avons une dizaine de places que nous avons gardées pour des individuels, c'est-à-dire que les gens, moyennant un don direct à l'association, avec la récupération fiscale de 66% qui va avec, peuvent participer, ils vont passer une journée, on va leur offrir un beau polo, ils vont déjeuner, dîner, faire le concours chef, et puis surtout participer à ce scramble à 4 avec vous tous, les amis du sport qui êtes toujours non seulement bienveillants, qui participaient aux enchères, mais voilà, qui avaient créé un esprit qui dure depuis 30 ans. Donc tout le monde peut s'inscrire, il suffit de me faire un petit mail à tibrek@orange.fr, je me permets.
Mais tu as bien raison.
T-E-E-B-R-E-A-K. Là, j'ai des membres de Courson qui m'ont appelé tout à l'heure pour s'inscrire. Voilà.
Eh bien, c'est parfait, Véronique. On sera là présent au rendez-vous, toujours à tes côtés pour l'association SOS Gazelle. C'est donc le mardi 10 octobre si vous voulez participer et croiser de nombreux champions. C'est la fin du Practice RMC spécial Ryder Cup. Je suis très heureux d'avoir vécu ces 4 jours avec vous. Fabien, Ramucho, Martin, Simon, on s'est régalé.
Ouais, c'est quel top. Kiff,
on s'est régalé.
Ça c'est du golf, tu vois. Ça c'est le golf.
Évidemment, merci à nos partenaires Ugolf et Blue Green qui nous ont permis, qui vous ont permis sur RMC d'avoir ces 4 numéros exceptionnels. Le Practice RMC revient bientôt, courant octobre. On sera là encore pour débriefer avec passion notre amour pour ce sport, le jeu de golf. Je vous embrasse, passez une très très belle soirée et à très vite. Salut.
Le Practice RMC Spécial Ryder Cup.